Wilkie Collins, Mad Moncton. Chapitre 1. Les Moncton de Wincot Abbey avaient dans notre pays la réputation de gens fort insociables. Jamais ils n'allaient chez personne, et sauf mon père, sauf également une dame et sa fille qui habitaient leur voisinage, personne n'allait chez eux. Bien que tous, très certainement, eussent à se reprocher le péché d'orgueil, ce n'était pas ce sentiment, mais bien la crainte, qui les faisait se tenir ainsi à l'écart de leurs voisins. De génération en génération, la famille avait vu se perpétuer chez elle l'horrible fléau d'une folie héréditaire, et ses membres reculaient à l'idée de mettre les étrangers dans le secret de cette calamité, ce qui fut inévitablement arrivé s'ils s'étaient mêlés à la petite communauté affairée dont ils faisaient partie. On a l'histoire effrayante d'un crime commis jadis par deux des Moncton, proches parents l'un de l'autre, crime auquel on reportait, par hypothèse, l'origine de cette insanité mentale qui était devenue le triste apanage de la famille. Mais il ne servirait à rien de choquer, en consignant ici ce chapitre de leurs annales, l'esprit de quelques lecteurs. Il suffira de savoir qu'à de certains intervalles, la folie se manifestait alternativement sous diverses formes dans le sein de cette famille condamnée. La monomanie était néanmoins, de toutes ces tragiques variantes, celle qu'on voyait se reproduire le plus fréquemment. Je tiens de mon père ces détails intimes ainsi que deux ou trois autres qu'il me faut relater encore. Au temps où j'étais jeune, il ne restait à l'abbaye que trois des Moncton, le mari, la femme et leur unique enfant, Alfred, l'héritier du domaine. Le seul autre membre de cette branche aînée de la famille qui vécut encore était Stephen, le frère cadet de M. Moncton. Resté célibataire, il possédait une belle propriété en Écosse, mais il passait sur le continent la plus grande partie de son existence et avait acquis la réputation d'un homme sans mœurs et sans scrupules. La famille établie à Wincot ne communiquait pas avec lui plus fréquemment qu'avec les voisins au milieu desquels elle vivait. J'ai déjà mentionné mon père, plus une dame et sa fille, comme possédant seul le privilège d'être admis à Wincot Abbey. Mon père avait été d'abord à l'école, puis au collège, le camarade de M. Moncton, et les hasards de la vie les avaient ensuite si souvent réunis qu'il était facile de comprendre comment leur intimité s'était perpétuée depuis lors. Je ne pourrais pas expliquer aussi bien par quel motif Mistress Elmsley, la dame à qui j'ai déjà fait allusion, se trouvait vis-à-vis des Moncton sur le pied d'une amitié familière. Le mari qu'elle avait perdu était parent éloigné de Mistress Moncton, et il avait désigné mon père comme tuteur de sa fille. Mais ces titres-là même, bien qu'ils impliquassent très certainement une liaison et des égards quelconques, ne me semblaient pas assez forts pour rendre tout à fait intelligibles les relations intimes qui existaient entre Mistress Elmsley et les habitants de l'abbaye. Ces relations n'en existaient pas moins. Et le continuel échange de visites qui avait lieu entre les deux familles amena, par la suite des temps, un résultat facile à prévoir. Le fils de M. Moncton et la fille de Mistress Elmsley conçurent l'un pour l'autre une affection réciproque. Je n'ai jamais été à même de pouvoir apprécier complètement cette jeune fille. Je me souviens seulement qu'elle était délicate, douce, aimable, et dans son extérieur aussi bien que dans son caractère, tout à fait l'opposé d'Alfred Moncton. Peut-être faut-il chercher là une des raisons de leur amour. Cette inclination, bientôt découverte, fut loin d'être désapprouvée par les parents des deux jeunes gens. Les Elmsley étaient, sur tous les points essentiels, sauf pourtant la fortune, les égaux des Moncton, mais la dot d'une fiancée n'avait pas d'importance pour l'héritier de Wincot. Car Alfred, après la mort de son père, devait hériter à coup sûr d'un revenu de 30 000 livres sterling. Aussi, quoique les deux familles ne jugeassent pas les jeunes gens d'âge à être mariés, on ne vit aucun empêchement à les fiancer, pensant qu'on les unirait lorsqu'Alfred Monckton aurait atteint sa majorité, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Mon père, en qualité de tuteur de la jeune Ada, était, après les parents, la personne à consulter sur cette affaire. Il savait que Mistress Monckton, cousine de son mari, avait subi, bien des années auparavant, l'atteinte du mal qui décimait ceux de sa race. La maladie, comme on disait alors en termes significatifs, avait été palliée par un traitement assidu. Elle avait disparu, assurait-on. Mais mon père ne pouvait s'y tromper. Il savait où se pouvait cacher encore le germe de ce mal héréditaire, et il envisageait avec horreur la possibilité que cette fatale infirmité reparût un jour chez les enfants de la fille unique de son ami. Aussi refusa-t-il positivement de consentir à cette mutuelle promesse de mariage. Ce refus eut pour résultat de lui fermer les portes de l'abbaye et celles de la maison de Mistress Elmsley. Durant cette courte interruption de nos rapports d'amitié, Mistress Monckton vint à mourir. Son mari, qui lui était sincèrement attaché, prit en accompagnant ses funérailles une maladie qui l'emporta au bout de quelques mois. Alfred Monckton se trouva ainsi possesseur de la grande et vieille abbaye et des magnifiques dépendances qui l'environnent. À cette époque, Mistress Elmsley eut l'indélicatesse de solliciter une seconde fois le consentement de mon père au mariage promis. Celui-ci refusa de nouveau, et d'une manière plus péremptoire encore. Un peu plus d'une année s'écoula ainsi, le temps approchait rapidement où Alfred allait être déclaré majeur. Je quittai le collège et mes vacances me ramenèrent chez moi, circonstance qui me donna l'occasion de faire quelques frais pour me lier plus étroitement au jeune Monckton. Ses avances furent déclinées, avec politesse bien certainement, mais cependant de façon à m'empêcher de lui offrir encore mon amitié. La mortification qu'aurait pu me faire éprouver ce petit échec fut effacée de mon esprit par un malheur réel qui vint altérer notre tranquillité domestique. Depuis quelques mois, la santé de mon père avait été en s'affaiblissant, et justement à l'époque dont je vais parler ici, ses filles eurent à déplorer l'irréparable perte qu'ils firent en sa personne. Cet événement, par suite de quelques défauts de forme ou quelques vices de rédaction dans le testament de feu M. Elmsley, livrait absolument à la mère de Miss Ada l'avenir de cette jeune personne. Il s'ensuivit que l'engagement matrimonial auquel mon père avait si fermement refusé de consentir fut immédiatement ratifié. Aussitôt que ce bruit fut devenu public, quelques-uns des plus intimes amis de Mistress Elmsley, instruits de ce qu'on disait au sujet de la famille Monckton, se permirent de mêler à leurs félicitations officielles une ou deux allusions significatives à l'état mental de feu Mistress Monckton, et y ajoutèrent quelques questions assez pressantes sur la santé du fils qu'elle laissait. Mistress Elmsley répondit qu'elle savait parfaitement à quoi s'en tenir. Elle traita d'infâme calomnie les rapports de ses amis, affirmant que le mal héréditaire avait disparu depuis plusieurs générations. Alfred était le meilleur, le plus doux, le plus sensé des hommes. Il aimait l'étude et la retraite. Ada sympathisait avec lui et l'avait choisi en toute liberté. Si l'on donnait encore à entendre qu'on la sacrifiait dans un pareil mariage, cela devait être pris pour une insulte à sa mère, dont il était monstrueux que l'on mît en doute l'affection et la prudence. Cette manière de parler réduisit tout le monde au silence, mais ne convainquit personne. Mistress Elmsley fut soupçonnée d'être une femme égoïste, mondaine, avide, qui, voulant avant tout voir sa fille richement mariée, ne s'inquiétait pas des conséquences d'une telle union, pourvu qu'elle vit Ada propriétaire des plus riches domaines du comté. Il sembla cependant qu'une sorte de fatalité vint se mettre à la traverse des projets ambitieux de Mistress Elmsley, car à peine la mort de mon père avait-elle fait disparaître un des obstacles qui semblait devoir empêcher ce mariage, projeté sous de si funestes auspices, qu'il s'en présenta un autre fondé sur l'état fâcheux de la délicate santé d'Ada. On consulta tous les médecins du pays. Le résultat de leurs avis fut que le mariage devait être différé. Il fallait, selon eux, que Mistress Elmsley quittât l'Angleterre pour résider pendant un certain temps sous un climat plus doux, dans le midi de la France, si je ne me trompe. Il arriva donc qu'à la veille de la majorité d'Alfred, Ada et sa mère partirent pour le continent. L'opinion s'établit que l'union des deux jeunes gens était indéfiniment ajournée. Les voisins d'Alfred étaient assez curieux de savoir quel parti prendrait le jeune Moncton en pareille circonstance. Suivrait-il la dame de ses pensées? S'adonnerait-il à ces navigations de plaisance qui sont le délassement favori de tant de jeunes Anglais? Ouvrirait-il enfin les portes de la vieille abbaye pour tâcher d'oublier, dans une vie de plaisir, l'absence d'Ada et l'ajournement de son mariage? Il ne fit rien de tout cela. Il resta simplement à Wincot, menant une existence aussi étrange, aussi solitaire, aussi suspecte que celle de son père. Pour unique société, il avait à l'abbaye celle du vieux prêtre, les Moncton, j'aurais dû le dire, étaient catholiques romains, auxquels, dès le début, avait été confiée l'éducation d'Alfred. Le jour où l'héritier devint majeur, il n'y eut pas même à Wincot, pour célébrer cet événement, le moindre dîner prié. Les familles du voisinage, résolues à mettre de côté les griefs que leur avait laissés l'attitude réservée de son père, l'appelèrent toutes chez elles. Ses avances furent poliment refusées. Quelques visiteurs se présentèrent résolument à l'abbaye et furent résolument éconduits, leurs cartes une fois remises. Il y eut de tous côtés des gens à qui la combinaison de tant de circonstances irritantes et de mauvais augure faisait secouer la tête d'un air mystérieux quand on venait à prononcer devant eux le nom du jeune Alfred Moncton, et qui parlait tout bas de la malédiction attachée à sa famille, se demandant avec aigreur ou tristesse, selon l'humeur d'un chacun, à quoi le jeune homme pouvait passer son temps dans le vieux château des airs. Il n'était pas facile de répondre à cette question. Par exemple, il eût été tout à fait inutile de la poser à l'ecclésiastique dont nous avons parlé. C'était un vieux gentleman calme et poli. Il était toujours prêt à répondre par des phrases qui, dans le moment, semblaient donner toutes les informations désirables, mais qui, lorsqu'on venait à y réfléchir, n'offraient généralement rien de saisissable et de précis. La femme de charge, espèce de vieille fée aux façons brusques et repoussantes, était trop farouche et trop taciturne pour qu'on osât l'aborder. Les domestiques de l'intérieur vivaient depuis assez longtemps au service de la famille pour avoir appris à se taire. C'était donc seulement auprès des valets de la ferme qui approvisionnaient la table de l'abbaye qu'on pouvait obtenir quelques renseignements. Encore ces renseignements étaient-ils bien vagues. Quelques-uns d'entre eux avaient observé leur jeune maître qui arpentait la bibliothèque, ayant aux mains des monceaux de papier poudreux. D'autres avaient entendu des bruits étranges dans les parties inhabitées de l'abbaye, et, levant les yeux, l'avaient vu ouvrir violemment les vieilles croisées comme pour laisser pénétrer l'air et la lumière dans des appartements qu'on supposait rigoureusement clos depuis bien des années. Quelquefois aussi on l'avait aperçu debout, au sommet périlleux d'une des tourelles à demi écroulées, où l'on n'avait pas gardé mémoire que personne fût monté jamais, et que la croyance populaire représentait comme habité par les fantômes des moines qui avaient autrefois possédé cette demeure. Le résultat de ces observations et de ces découvertes, passant ainsi de bouche en bouche, fut naturellement d'imprimer dans les esprits la conviction que le pauvre jeune Moncton prenait la route où le reste de la famille avait marché avant lui. Cette opinion semblait acquérir sur le public un ascendant considérable. Encore fortifié par cette conviction, à l'appui de laquelle n'existait aucune preuve, qu'au fond de tous ces malheurs se cachait l'influence du prêtre. Je n'ai parlé jusqu'ici la plupart du temps que d'après oui-dire. Ce que je vais ajouter maintenant, je le sais, pour y avoir pris une part directe.